Bienvenue dans ce nouvel épisode « Prendre la décision d'apprendre ». Je suis Christophe Dereca, une approche différente de la formation. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une personne décide d'apprendre ou pas, que ce soit en formation, face à un nouveau logiciel ou simplement dans la vie de tous les jours? Ne pas connaître ses raisons, c'est prendre le risque de mettre trop vite la faute sur le manque de motivation ou pire encore, sur les apprenants eux-mêmes. Alors qu'en réalité, la décision d'apprendre est un mécanisme beaucoup plus complexe. Dans cet épisode, je vous propose d'identifier ce mécanisme de prise de décision et de découvrir des techniques pour faciliter l'engagement, la responsabilité d'apprendre et au final, la décision d'apprendre. C'est parti. Dans un premier temps, rappelons brièvement comment se passe une prise de décision. Même si on aimerait bien le croire, une décision n'est jamais un éclair de lucidité. Ce n'est pas un tilt, ce n'est pas instantané. C'est un mécanisme, un processus. Nous ne prenons quasiment jamais une décision sur un coup de tête. Même les choix qui semblent spontanés sont en réalité le résultat d'un enchaînement très rapide d'évaluations internes. En fait, on compare toujours la situation actuelle avec ce qu'elle pourrait devenir une fois la décision prise. Prenons un exemple simple. Pizza ou salade? Ça paraît banal, mais derrière ce choix, il y a la perception d'un choix, j'ai faim, j'ai envie de quelque chose de frais, une émotion, plaisir, culpabilité, envie de se faire du bien, un arbitrage, si je prends la pizza, je serai calé, si je prends la salade, je me sentirai plus léger, une projection, comment je vais me sentir après. Et cela vaut pour toutes les décisions. Changer de voiture, s'engager dans une formation, demander de l'aide, apprendre une nouvelle compétence. Les chercheurs en sciences cognitives décrivent d'ailleurs quatre ingrédients qui reviennent presque toujours. 1. Une perception. On identifie un manque, un écart, un problème. Je galère toujours avec Excel. Je ne me sens pas à l'aise en animation. Je perds du temps sur telle ou telle tâche. 2. Une émotion. Les émotions précèdent souvent la décision. C'est d'ailleurs l'un des points clés de nombreuses recherches en neurosciences sur la prise de décision. Envie, inconfort, stress, curiosité, quelque chose nous met en mouvement. 3. Un arbitrage. On évalue le rapport coût versus bénéfice. Est-ce que ça vaut le coup de m'y mettre maintenant? Quelle énergie ça va me prendre? Enfin, 4. Une projection. On se demande consciemment ou pas à quoi ressemblera la version de moi après. C'est ce que l'on appelle parfois une décision basée sur l'identité. Les neurosciences le confirment. La décision d'apprendre, comme toute autre décision, n'est pas instantanée, mais le résultat d'un traitement cérébral complexe. Par exemple, le neuroscientifique Olaf Krigerson et son équipe montrent que notre cerveau mobilise différents systèmes selon que la décision est intuitive ou réfléchie, ce qui illustre que perception, émotion, valeurs subjectives et apprentissage antérieur sont en jeu. C'est là l'idée clé. On n'apprend pas parce qu'on sait qu'on doit apprendre. On apprend parce qu'on se voit capable de gagner quelque chose. Comprendre le mécanisme de décision, c'est bien, mais en formation, ce qui compte vraiment, c'est comment faciliter cette décision chez nos apprenants. Comment créer les conditions pour que chacune et chacun se dise « Ok, c'est pour moi, je m'engage ». Voici 4 techniques. La première, rendre visible le bénéfice apprenant immédiatement. La plupart des apprenants ne s'engagent pas pour une promesse lointaine. Ils s'engagent parce qu'ils voient immédiatement un bénéfice ou que le bénéfice va être atteint très vite. Pour cela, formulez vos objectifs pédagogiques en termes de compétences et laissez tomber les objectifs SMART qui n'ont rien à faire dans un dispositif de formation. Pour chaque séquence, identifiez la tâche. c'est-à-dire ce que les apprenants seront en mesure de réaliser à la fin de la séquence. Précisez également la condition, le moment concret où ils devront appliquer cette tâche sur le poste de travail. Et enfin, n'oubliez pas la norme ou le standard attendu par l'entreprise ou le commanditaire. Montrez également un avant et après concret. Par exemple, avant, perte de temps, incertitude. Après, autonomie, fluidité, gain de temps. Et donnez dès le début une vision d'ensemble reliée au contexte professionnel. Les recherches de Desi et Ryan montrent que le sentiment de compétence immédiate renforce la motivation intrinsèque. En clair, si je me sens progressé, j'ai envie de continuer. En deux, abaisser le coût perçu. On ne bloque pas parce que c'est difficile, on bloque parce qu'on s'attend à ce que ce soit difficile. Il nous faut donc fractionner le contenu et les tâches. Dédramatiser même dans le cas où le contenu est difficile à apprendre, mais plutôt rassurez-les. Les travaux de Tversky et Quenman montrent qu'on a tendance à surestimer le coût de l'effort futur. En abaissant cette anticipation, on facilite mécaniquement l'entrée dans l'apprentissage. Troisième technique, installer une responsabilité d'apprentissage. Pas une pression, pas un contrat d'engagement, juste un mouvement volontaire, même minime. Par exemple, demandez à vos apprenants de faire un choix, de sélectionner parmi les thématiques de l'ordre du jour celles qui leur paraissent les plus importantes pour leur travail quotidien, ou proposer une option sur quoi souhaitez-vous progresser aujourd'hui. Faire un choix active le sentiment d'agentivité. Et selon la théorie de l'autodétermination, ce sentiment est l'un des moteurs les plus puissants pour un engagement durable. Technique 4, travailler la projection identitaire. La décision d'apprendre est souvent déclenchée par une question très simple. À quoi ressemblera la version de moi qui maîtrise ça ? Proposez donc une projection et mettez en lumière la transformation. Par exemple, imaginez-vous demain capable de. Les travaux de James March sur les décisions identitaires montrent qu'on agit souvent en fonction de la personne qu'on souhaite devenir, plus que par simple calcul rationnel. En résumé, faciliter la décision d'apprendre, ce n'est pas convaincre, ce n'est pas pousser. C'est rendre l'apprentissage accessible, désirable et immédiatement utile. Avant de vous laisser, une dernière info. En janvier 2026, je reprends la route pour la 21e édition du Tour de France Eureka. Oui, le Tour de France Eureka. Cette année, je vous propose une formation de 3 heures en présentiel intitulée « 21 idées pour transformer vos formations ». Un concentré d'astuces, de pratiques, de conseils et de petites pépites pédagogiques que je vous ai préparées à tester et à mettre en place dès le lendemain dans vos formations. Je passerai par Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Paris et même Bruxelles et Genève. Si ça vous tente, toutes les informations sont dans l'espace ressources de cet épisode ou directement sur le site eureka-tp.com/tdf2026. Je serai ravi de vous y rencontrer et de vous y retrouver. Certaines dates sont déjà complètes, mais vous devriez sans difficulté trouver une étape proche de chez vous pour vivre ces 3 heures de découverte pédagogique. Quoi qu'il en soit, on se retrouve mercredi prochain pour la Minute Pédago. D'ici là, prenez soin de vous.